Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux Demoiselles de Rochefort, partie 2. Sur Séance Radio par BNP Paribas.
Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr.
Bonjour.
Donc nous allons évoquer ce film et les souvenirs qui tournent autour des Demoiselles de Rochefort, le film de Jacques Demy, sorti en 1967, tourné pendant l'été 66 à Rochefort. Et avec nous, il y a Chantal Jourdain, qui était là, jeune fille, petite fille, même petite fille, collégienne, et qui a suivi ce tournage et qui est même figurante. Et puis aussi Rosalie Varda avec nous, la fille d'Agnès Varda, fille adoptive de Jacques Demy, qui était aussi sur le tournage et qui a suivi tout ça et qui aujourd'hui s'occupe de faire vivre tous ces l'œuvre de Jacques Demy. Et puis évidemment Antoine Cyr. Alors nous allons dans un instant partir à Los Angeles, c'est ça vous avez fait
hein. Et oui, j'ai pu interviewer par téléphone Georges Chakiris, qui garde évidemment un souvenir très ému des Demoiselles de Rochefort. Il faut savoir qu'au moment des Demoiselles de Rochefort, Georges Chakiris, c'était quand même la personne qui venait, l'une des personnes qui venait d'avoir un Oscar pour West Side Story. Et West Side Story, c'est la comédie musicale qui rénove la comédie musicale. On est au début des années 60, c'est un autre monde, quoi. C'est là, ça se passe dans une ville, c'est un décor urbain, un peu comme finalement d'ailleurs les Demoiselles de Rochefort. Même si le New York, évidemment, des Jets et des Sharks est très différent de la petite ville de province française, mais quand même il y a un vent très fort de rénovation qui souffle sur la comédie musicale, et d'une certaine manière les Demoiselles de Rochefort se placent un peu entre la comédie musicale classique avec Gene Kelly qui la représente, et puis tous ces danseurs et ces acteurs très jeunes à l'époque, dont Georges Chakiris, qui nous parlera tout à l'heure, est une illustration.
Alors Chantal Jourdain, vous avez, malgré votre jeune âge à l'époque, vous avez un souvenir de Georges Chakiris.
Oui.
Comment dirais-je, brûlant.
Ah, c'était un très beau garçon, et c'est vrai que les Rochefortaises n'avaient Dieu que pour Georges Chakiris dans l'équipe. Peut-être parce que justement, on avait vu le film, il y avait eu West Side Story. Et puis c'était quelque chose, encore une fois, c'était de grands danseurs. Et c'était assez extraordinaire pour cette petite ville de province.
Alors cela dit, il y en a un troisième qui est Grover Dell, qui était aussi un Américain, un danseur et chorégraphe, qui a très bien réussi comme chorégraphe par la suite, et qui joue très très bien son rôle dans le film. Hein. Il est vraiment très très bien.
Moi j'aime beaucoup Grover Dell. Je le trouve très charmant, très charmeur.
Très malin, oui.
Oui, très malin. Et moi j'avais un petit faible pour Grover Dell.
Alors nous sommes le 8 mars 1967. Et ce jour-là sort dans 6 salles d'exclusivité, à l'époque, hein, c'était comme ça à Paris, les salles d'exclusivité, le film les Demoiselles de Rochefort, en 35 mm et même en 70 mm, il y a des copies.
Bien sûr, parce que c'était du scope, c'était du cinémascope, donc un format qu'on n'utilise plus aujourd'hui.
Oui, mais le scope, c'est pas comme le 70 mm, c'est deux choses différentes. Donc il y a eu des copies en fait faites en 70 mm, ça a été tourné en 35 mm, en scope et 35 mm.
Oui,
et puis il y a quelques salles.
C'est une focale qu'on rajoute qui permet d'avoir... si vous voulez, une image, j'allais dire, très, très rectangulaire et très fine.
Voilà. Et puis alors, donc, le film sort. Il arrive en tête la première semaine avec 67 000, un peu plus, 68 000 presque entrées. Il passe en première place, donc, du box-office, juste avant La Grande Vadrouille, qui est en 14e semaine, donc il commence à perdre un petit peu, mais enfin quand même, bon. Il y a Le Voleur, un film avec Belmondo, Louis Malle, et puis Grand Prix, un film qui va droit au cœur de notre ami Antoine Cyr.
On en a beaucoup parlé dans le filmographe.
Absolument, et donc il sort le même jour que Les Demoiselles de Rochefort, et qui ne fera, en France en tout cas cette semaine-là, que 28 982 entrées. Ensuite, en deuxième semaine, Les Demoiselles de Rochefort laisse la place à Fantomas contre Scotland Yard, qui arrive en tête, donc cette semaine-là, toujours La Grande Vadrouille, toujours Grand Prix derrière. Et puis la troisième semaine, Les Demoiselles de Rochefort, toujours en seconde position, après La Canonnière du Yangtze de Robert Weiss, qui sort aussi cette semaine-là. Et puis en quatrième semaine, il passera en cinquième place, et cinquième semaine, Il passera à la 7e position du box-office, ce film qui est vu par la presse alors d'une façon très différente. Et alors il y a un mot qui revient souvent, c'est rose bonbon, c'est évidemment sur les couleurs un peu douceâtres, tout ça, et quelquefois c'est un peu sucrailleux, quoi.
Oui, alors les critiques parlent énormément de rose, hein. Les échos disent un rêve en bleu pastel et rose bonbon. L'Aurore dit rose bonbon, mais digne des meilleures comédies musicales de Broadway. Pierre Marcabru dans Art dit c'est joli, c'est sucré comme un bonbon anglais. Jean Rochereau dans La Croix dit demi, ça donne au rose bonbon, fondement des opérettes. Michel Pollack dans Le Masque et la Plume dit pourquoi demi aime tellement le rose bonbon. Quand on voit arriver les bonnes sœurs, on se dit enfin du noir. Alors cela dit, je pense qu'ils exagèrent tous un peu avec le rose, parce qu'il y a aussi beaucoup de parme et beaucoup de bleu dans le film.
Oui, mais je pense que c'était aussi, comment vous dire, ce film a été détonné quand même, cette esthétique à base de blanc, et on rajoute une couleur, où on fait bouger les couleurs. C'était aussi parce que Jacques a toujours aimé la peinture, a toujours aimé d'ailleurs... toute forme d'art. Il était très féru de peinture contemporaine. Et dans ces années-là, une de ses galeries préférées, c'était la galerie Denise René, boulevard Saint-Germain, et où il avait vu des œuvres de Nikita Saint-Phalle, de Tinguely. Il aimait beaucoup Klein, etc. Donc, si vous voulez, c'est une façon un petit peu comme ça de se moquer gentiment de Jacques. Mais je pense que les couleurs dans les films de Jacques Demy ne sont pas posées comme ça pour faire bonbon anglais, mais ont un vrai sens par rapport à son histoire et par rapport à son projet artistique.
D'ailleurs, les critiques dans leur ensemble ont été bonnes. Hein. Le côté rose, il est sorti, mais rarement de manière négative.
Oui, Jean-Louis Bory est absolument dithyrambique. Alors, il dit quand même que c'est un film qu'on en sort en se léchant les doigts, mais enfin, il trouve le film extraordinaire. Robert Chazal, alors, dans François, propriété de notre ami Lazareff, donc forcément, peut-être que... Bon, enfin, quand même, il dit une chose, c'était mignon comme tout, il pointe la fantaisie charmeuse de Françoise d'Orléac et le charme fantaisiste de Catherine Deneuve. Il en dit beaucoup de bien aussi. Et puis, alors, François-Régis Bastide au micro du Masque et la Plume, pour un critique, c'est assez étonnant, il conclut à bout d'argument en disant c'est un film qu'il faut voir et dont il ne faut pas parler. C'est quand même embêtant pour un critique. Et alors, peut-être que ce...
On devrait suivre ce conseil plus souvent.
Peut-être. Et dans Pariscope, Michel Mardor, resté célèbre en critique aussi, est peut-être le plus juste quand il dit ce film est destiné à prouver que seules les montagnes ne se rencontrent pas. C'est-à-dire que c'est un film, voilà, on pensait ça impossible, quoi. Hein.
Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est comment on regarde le film différemment maintenant en 2013 par rapport au moment où il est sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce film, quand même beaucoup de gens en France, en tous les cas à travers le monde aussi, parce que je voyage beaucoup pour l'œuvre de Jacques Demy, mais quand même beaucoup de personnes ont vu ce film. Parce qu'il est quand même passé pas mal à la télé et qu'il y a quand même dans les jeunes générations et même chez les garçons, beaucoup de personnes qui ont vu Les Demoiselles de Rochefort. Il y a quelque chose, ça fait partie aujourd'hui d'un certain nombre de films français, je trouve, qui font partie un petit peu de cette mémoire collective du patrimoine. On voit, si vous voulez, aujourd'hui, un nouveau regard sur l'œuvre de Jacques Demy, dû à des nouveaux critiques qui, depuis une dizaine d'années, commencent à décortiquer son œuvre, à aimer son œuvre différemment.
Merci Rosalie Varda d'être venue nous parler. Merci Chantal Jourdain également de nous avoir
merci
raconté ses souvenirs de tournage à Rochefort pendant l'été 66. Antoine Cyr, nous allons maintenant partir avec vous, donc sur les ailes de la danse quasiment, comme dirait l'autre.
Voilà, comme dirait Fred Astaire.
Voilà. Ne mélangeons pas. Vous avez donc joint Georges Chakiris
qui nous parle des Demoiselles de Rochefort, mais qui nous parle aussi des débuts de sa carrière, de West Side Story et d'un épisode moins connu de sa carrière européenne lorsqu'il a tourné dans On a volé la Joconde de Michel Deville.
Le filmographe sur Séance Radio, c'est Antoine Cyr et aujourd'hui il a passé un petit coup de fil là-bas, outre-Atlantique et au bout du fil c'était et c'est toujours Georges Chakiris.
Georges Chakiris, c'est un des deux forains trépidants des Demoiselles de Rochefort, mais c'est aussi l'acteur qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle en 1963 pour un film majeur de l'histoire du cinéma. Écoutez Shirley Jones qui donne la liste des nominés de cet Oscar.
The nominees for best performance by an actor in a supporting role are George Chakiris in West Side Story, Montgomery Clift in Judgment at Nuremberg, Peter Falk in Pocketful of Miracles, Jackie Gleason in The Hustler, George C. Scott in The Hustler. And the winner's name is in this envelope. The winner is George Chakiris in West Side Story.
George Chakiris, la révélation de West Side Story, a donc accepté de répondre à mes questions 50 ans après son Oscar. Il nous parle de la partie européenne de sa carrière, mais aussi de West Side Story et de ses débuts. Écoutez.
J'ai grandi en Californie, à Long Beach, une ville très proche de Los Angeles. C'est là où je suis allé à l'école et où j'ai eu mon diplôme. Petit, comme tous les enfants, j'étais fasciné par le cinéma, par les films. Je savais que c'était ce que je voulais faire plus tard, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un jour à l'école, j'ai rencontré une très belle camarade de classe. C'est elle qui m'a parlé d'une école de danse située à Hollywood qui s'appelait l'American School of Dance. Un jour, j'ai donc pris le train de Long Beach à Hollywood. Je me suis rendu à cette école sur Hollywood Boulevard, juste à côté du Grauman's Chinese Theater. À 11h30 ce matin-là, j'ai assisté à un cours de danse classique. Il n'y avait personne de célèbre ce jour-là, mais quand j'ai vu ce spectacle, j'ai su que je devais m'inscrire à cette école. J'ai donc obtenu un job de bureau dans la section publicitaire du grand magasin May Company à Los Angeles. C'est ce qui m'a permis de me payer un appartement et d'étudier la danse dans cette école. C'était une super expérience. Quand j'ai commencé à étudier dans cette école, la plupart des danseurs travaillaient aussi en parallèle. Comme les danseurs de Chantons sous la pluie, Jane Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor, la plupart d'entre eux travaillaient sur ce film et en même temps, ils suivaient des cours dans la même école que moi. Grâce à ça, j'ai pu entendre leurs histoires et leurs témoignages sur le fait de participer à un film. Après plusieurs mois, j'ai pu passer une audition pour Eugène Loring, qui était le responsable de la danse classique dans cette école. Il travaillait alors sur un film de Stanley Kramer appelé « Les 5000 doigts du Dr. T ». Il avait besoin de 60 danseurs hommes pour une séquence de danse. Il n'y avait pas tant de danseurs que ça au sein de l'Union des danseurs à cette époque. Du coup, certains d'entre nous, non professionnels, ont pu passer l'audition pour ce film et j'ai été pris comme danseur à ce casting. Du coup, ma première expérience professionnelle comme danseur était d'être parti du cœur de danseur de ce film. C'était un film surprenant et très innovant. Et Stanley Kramer était un producteur super. Il a d'ailleurs produit de nombreux films magnifiques. Ma première expérience professionnelle dans cette industrie était donc celle d'un danseur, car finalement, simplement par coïncidence, c'était simplement la première chose que je voulais étudier. C'est comme ça que tout a commencé, et c'est ce qui m'a permis de passer des auditions pour des films musicaux qui se sont présentés à moi par la suite, comme La Joyeuse Parade, Les Hommes préfèrent les blondes et Noël Blanc, entre autres. Ma carrière a donc commencé comme danseur dans tous ces très beaux films hollywoodiens de musical.
movie musicals.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put that in.
Vous écoutez Séance Radio, c'est toujours le Filmographe, bien sûr, qui continue, toujours avec Antoine Cyr en compagnie, au téléphone de Georges Chakiris.
Votre histoire avec West Side Story a commencé en Angleterre, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai été engagé pour jouer le rôle de Riff dans la London Company. C'était en décembre 1958.
On a fait la première au théâtre Her Majesty's à Londres et j'ai fait ça pendant un an et demi. Mon histoire initiale avec West Side Story a donc commencé au théâtre à Londres. C'était une période fantastique de ma vie.
Au théâtre, vous campiez le rôle de Riff, le chef des Jets. Comment s'est déroulé votre passage dans l'autre camp, celui des Sharks, dans le film ?
Quand on faisait la pièce à Londres, on entendait de plus en plus de rumeurs sur une éventuelle adaptation en film à Los Angeles. Mais bien entendu, aucun de nous n'osait rêver de faire partie de ce projet. On entendait beaucoup de noms connus, comme celui d'Elizabeth Taylor ou d'Elvis Presley, toutes ces stars pressenties pour le film. Mais un jour, cinq d'entre nous ont reçu une lettre de la United Artists. C'était une belle surprise. Les lettres nous demandaient de passer des tests pour le film. Ma lettre à moi me demandait de préparer une scène dans le rôle de Riff, le personnage que je jouais au théâtre, mais aussi une scène en tant que Bernardo, chef des Sharks. Nous, les cinq chanceux, avons donc été un matin dans les studios Elstree à l'extérieur de Londres et nous avons passé nos auditions. On était tous très excités et impatients, c'était fantastique. À la fin de cette séance de test, on est naturellement retourné au théâtre pour jouer nos rôles le soir même. Après quoi, une semaine a passé, puis deux, puis trois. On se croisait dans les couloirs entre deux scènes au théâtre, on s'interrogeait. Est-ce que tu as des nouvelles de ton côté ? Mais aucun de nous n'avait eu de retour. Donc après environ cinq semaines sans nouvelles, on pensait qu'il ne donnerait pas suite et qu'aucun de nous ne serait dans le film. Mais après six semaines, un soir, juste avant de monter sur scène, j'ai reçu un coup de fil au théâtre de la part de Jerome Robbins. Et Jerry m'a dit, on a bien aimé ton test, mais on voudrait en voir plus. Il faudrait que tu prennes une semaine d'absence pour venir passer de nouveaux tests à Los Angeles. Heureusement, le théâtre a accepté de me libérer pour une semaine. J'ai donc pu m'envoler pour Los Angeles et j'étais heureux d'y retourner car ça faisait un moment que je n'avais pas vu ma famille. Je connaissais déjà Jerry puisque j'avais travaillé avec lui pour certaines productions au théâtre, mais j'ai pu rencontrer Robert Wise. Je crois que je l'ai rencontré un mercredi. J'ai bien refait un test en tant que Bernardo, test qui était dirigé par Jerry. Et le week-end suivant, je suis retourné à Londres pour reprendre mon rôle au théâtre. À nouveau, les semaines ont passé, et ce n'est qu'au bout d'environ 10 semaines que j'ai reçu un télégramme qui m'annonçait que j'avais obtenu le rôle de Bernardo. C'est un télégramme fantastique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le film.
Ici en France, on a aussi beaucoup d'affection pour Robert Wise et pour Natalie Wood. Quel souvenir gardez-vous de ces deux personnalités?
Bien sûr, mes souvenirs de Natalie. Elle n'avait que 23 ans, elle était si jeune. Tout le monde était jeune dans le casting, mais elle était déjà une star de cinéma. Elle a commencé sa carrière très jeune et est devenue une star très jeune. C'était donc une actrice très professionnelle et très douée. Elle avait cette qualité naturelle que vous pouviez voir dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle était intelligente, douce, drôle et attentionnée. Elle était merveilleuse et tellement belle. C'était vraiment une très très belle personne. J'aimais vraiment beaucoup Natalie. Je n'ai jamais été proche d'elle, mais nous étions amis. Elle m'a aidé à prendre des décisions et à faire des choix par la suite. Elle était incroyablement gentille. C'était vraiment une personne merveilleuse, une très belle personne. Je l'aimais beaucoup. Le film était co-réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins. Concrètement, en tant qu'acteur, on était principalement dirigé par Jerry Robbins. Robert Wise, je l'appelais la figure paternelle. C'était celui qui comprenait, qui connaissait tout au monde du cinéma. Il avait déjà dirigé et réalisé tant de films. C'était donc plus l'expert en film. C'était une très bonne idée de les allier dans la direction de ce film, puisqu'ils y contribuaient chacun avec sa propre méthode et sa propre façon de faire. Jerry était plus le maître exigeant. West Side Story était bien sûr son idée à l'origine. C'était en quelque sorte son enfance, elle était déjà au théâtre. Ses chorégraphies, sa mise en scène, sa touche personnelle et son perfectionnisme. Rien n'aurait été pareil sans l'incroyable contribution de Jerry Robbins. Enfin, peu après la moitié du tournage, et ça me paraît invraisemblable, mais M. Robbins a été renvoyé. C'est terrible à dire. C'est donc Robert Wise qui a repris la main et qui nous dirigeait directement. Sur ce film, on a commencé par répéter tout comme dans la pièce. On a refait chaque scène, chaque chorégraphie pendant 4 mois avant d'allumer la moindre caméra. Donc tout le monde était très bien entraîné et prêt avant de filmer. La présence de Jerry avait été primordiale pour cette étape. Quand il est parti, qu'il a été remplacé par Robert Wise, c'était particulier. Robert était adorable, tout le monde l'aimait et pour de bonnes raisons, il était patient et aimable. Mais il ne parlait pas beaucoup. Il ne nous donnait pas beaucoup d'indications quand il filmait. En fait, il n'avait pas grand-chose à changer parce que tout avait été répété et réglé au préalable avec Jerry. Ils étaient si différents dans leurs approches avec les membres du casting. Les deux façons de voir étaient très bonnes, mais vraiment je dois souligner que Robert Wise était une personne vraiment agréable.
Bob was just a wonderful, kind, patient,
Et c'était un vrai plaisir de travailler avec lui, bien sûr. La première fois que j'ai rencontré Jacques Demy et Michel Legrand à Los Angeles, c'était génial de les rencontrer. Je ne connaissais pas Jacques, mais je connaissais la musique de Michel Legrand. Bien sûr, j'avais envie de travailler avec eux. Je pense que Les Demoiselles de Rochefort est vraiment un beau film. J'étais très heureux d'en faire partie. Ça a été une très belle expérience. J'ai vraiment aimé.
Mademoiselle de Rochefort, c'est aujourd'hui encore dans le filmographe. Nous sommes avec Antoine Cyr, qui est au téléphone avec Georges Chakiris.
Et là, vous arrivez en France, à Rochefort. Quelle a été votre impression à ce moment-là? Est-ce que c'était votre première visite en France?
On a commencé par répéter à Londres. C'est là où j'ai rencontré Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve et Norman Mann, qui étaient le chorégraphe, et tous les autres danseurs. On a répété dans un studio à Londres. Donc quand on est arrivé à Rochefort, les numéros et les chorégraphies étaient déjà prêts. La première fois qu'on a travaillé ensemble pour répéter, tout mettre en place, c'était à Londres avant d'aller à Rochefort. Quand on est arrivé à Rochefort, on a trouvé la ville et la place comme on peut le voir dans le film. C'était plein de couleurs pastel. La personne qui faisait les décors à Rochefort pour le film, et dont j'ai oublié le nom, était incroyable. Ses designs, ses décors et ses couleurs étaient superbes. Bien sûr, il réalisait tout ça en collaboration étroite avec Jacques Demy. L'impression que je garde de Jacques, c'est que c'était quelqu'un de tellement doué, de talentueux. La vision de ce qu'il voulait était très claire dans son esprit. Donc nous avons commencé par répéter à Londres avant de réellement commencer le tournage à Rochefort.
De manière générale, c'était quoi votre plus grand défi sur ce tournage ?
Mon plus grand challenge était sans doute le fait de tourner à la fois en version française et en version anglaise. Toutes les scènes musicales et les scènes de danse étaient tournées d'abord en français. Puis quand on avait une bonne prise en français, on devait refaire une prise en anglais. Donc, on devait faire chaque chose deux fois. Mais quand vous êtes si jeune et passionné, on ne considérait pas ça comme un problème. On était juste heureux d'être là et de faire ça. Mais c'était sans doute le plus gros challenge.
Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis.
Les marins font de mauvais maris.
Mais les marins font de bons amants.
Marins, amis, amants ou maris, les marins sont toujours absents.
Le filmographe sur Séance Radio, c'est Antoine Cyr. Et aujourd'hui, il a passé un petit coup de fil là-bas, outre-Atlantique. Et au bout du fil, c'était, et c'est toujours, Georges Chakiris.
Vous étiez doublé, bien sûr, mais en même temps, vous deviez chanter en playback sur des prises en français. Ça devait être un autre défi de taille.
Oui, c'est vrai, c'était assez spécial aussi. Je ne parlais pas un seul mot de français. On a donc appris les dialogues en français comme on pouvait. Je me souviens que l'une des assistantes de Jacques nous avait conseillé de parler le plus vite possible. Parce que le flot des mots en français est terriblement rapide. Je dois dire que c'était un beau défi. Je me souviens, un jour avant de filmer, on était assis en train d'échanger et de répéter avec Grover Dale. Catherine est arrivée vers nous. Elle et Françoise étaient tellement gentilles. Et en passant, elle a juste souri vers nous parce qu'elle voyait bien qu'on faisait de notre mieux pour y arriver. C'était vraiment mignon.
Qu'est-ce que vous appréciez chez Jacques Demy? Quel genre de réalisateur était-il?
Jacques était, vraiment c'est le souvenir que j'en ai, Jacques était un artiste. Quand vous pensez à tout ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Il a été un écrivain très intéressant. C'était merveilleux de travailler ensemble. Je n'ai eu aucun problème avec lui. On travaillait dans une très bonne ambiance. On appréciait ce qu'on faisait. Il était silencieux mais minutieux. Il était bon et gentil. Il était compréhensif. Bien sûr, il y a toujours quelques petits problèmes à droite, à gauche. Par exemple, je n'étais jamais présent quand il tournait avec Gene Kelly. Mais Gene était un maître du film musical. Et la façon dont il préparait ses films américains était différente de la façon dont Jacques préparait ses films. Par exemple, Gene, dans un de ses films, connaissait tout sur l'angle de la caméra qu'il filmait. Il savait exactement quand l'angle changeait pour que la scène soit divisée en sections. Il dansait donc en tenant compte de cet angle particulier et de cette méthode. Jacques, plus artistique, préférait lui filmer de longues séquences afin de décider plus tard, en salle de montage, de l'allure exacte qu'aurait ce numéro. Jacques voulait de longues prises. Gene Kelly, lui, voulait des prises courtes. C'était le seul différent qu'ils avaient. Je me souviens d'une chose que Jacques a faite pour nous un jour à Rochefort. Il a édité une séquence d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes et on s'est tous rendus au cinéma local pour la visionner sur grand écran. Il voulait nous montrer ce qu'il faisait et comment il voyait ce film. Sa femme était aussi régulièrement présente. Elle était assez silencieuse et discrète, elle restait en arrière. Mais c'était vraiment agréable de voir la relation complice qu'ils avaient. Travailler avec Jacques, il n'y avait que des petits contretemps. Je suis désolé de vous donner une réponse si longue. Travailler avec lui était un plaisir et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec lui. Les danseurs étaient anglais, ils venaient de Londres. Les seuls Américains membres du casting étaient Gene Kelly, Grover Dale et moi. Après, tous les membres de l'équipe, du casting, tous les autres étaient français. Et je dois dire que le casting français de ce film était vraiment, vraiment très beau.
Jacques Perrin, Françoise, Catherine.
Daniel Darieux, Michel Piccoli, Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, ils sont tous merveilleux. Jacques avait un casting français avec quelques acteurs américains dans ce film. Et bien sûr, toute l'équipe, les prestataires étaient français. C'était donc un film quasiment intégralement français. Je garde un merveilleux souvenir de Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve. J'ai vu le film il y a quelques mois. Ils ont fait une projection du film ici. Michel Legrand était d'ailleurs là pour rencontrer le public après. Je n'avais pas vu le film depuis une éternité. Et encore une fois, je pense que c'est un très beau film. Je l'adore. Daniel Darieux est merveilleuse. Tout le monde est bien dedans. Mais Catherine, c'était vraiment intéressant de la revoir dans ce film, comme actrice. Parce qu'elle est vraiment très belle, bien sûr. Mais sa façon d'être dans ce film est vraiment très naturelle. On voit qu'elle n'est pas en train de se forcer à jouer. Elle est simplement capable d'être présente dans un superbe sens, beau et simple. On se rend compte de la force qu'il y a dans sa performance. J'étais fasciné de retrouver ça. Et Françoise, elle était si belle, si drôle et douce. Elle était aussi chaleureuse. Nous cinq, Françoise, Gene Kelly, Grover Dale, Catherine Deneuve et moi, nous vivions dans une grande maison qui se situait un peu plus loin, à environ 15 minutes en voiture de Rochefort. Souvent, Françoise avait sa voiture qu'elle conduisait avec son petit chien. Et donc souvent, je faisais ce trajet vers Rochefort avec Françoise. On a pu apprendre à se connaître. Plus tard, elle est venue à Londres pour la première d'un nouveau musical de Norman Vain. Donc on a pu se voir et j'ai pu apprendre à la connaître. Toutes ces expériences m'ont permis de bien connaître ces jeunes femmes et de les apprécier. J'ai aussi rencontré Catherine Deneuve à de nombreuses reprises lors de mes visites à Paris et en France. Je les aime énormément et je les respecte beaucoup et je les apprécie vraiment, vraiment beaucoup.
Écoutez Séance Radio, c'est toujours le filmographe, bien sûr, qui continue, toujours avec Antoine Cyr en compagnie, au téléphone de Georges Chakiris.
Vous avez des origines européennes. Est-ce que ce film a créé un lien particulier entre la France et vous?
En fait, ma première expérience dans un film européen était mon rôle dans un film italien dans lequel je tournais avec Claudia Cardinale. J'ai toujours pensé que j'étais plus à l'aise dans les productions européennes. J'adorais leur façon de travailler. J'avais l'impression, en un sens, d'être américain, bien sûr. Mais j'avais aussi l'impression que mes racines européennes me permettaient de me sentir vraiment à ma place. Je ne me suis jamais senti hors contexte. Je me suis toujours senti parfaitement intégré. Que ce soit avec Jacques ou avec Luigi Comencini, réalisateur du film avec Claudia Cardinale.
On a volé la Joconde.
Yes, yes.
Et j'ai aussi fait un film avec Marina Vladi. Oui, c'était vraiment un beau film. Ça aurait pu être vraiment un film encore plus beau, mais Michel Deville... Enfin, le problème avec ce film, malheureusement, c'est que le producteur italien n'avait jamais produit quoi que ce soit avant. Quand le tournage a été filmé, il a récupéré le montage et l'editing des mains de Michel Deville. Ce film aurait pu être encore meilleur s'il avait été monté par le réalisateur et le staff. Mais ça reste une très belle expérience. C'était merveilleux de travailler avec Marina. On est d'ailleurs toujours très amis. Donc je me suis toujours senti comme à la maison dans les productions européennes.
Georges Chakiris, merci beaucoup. C'était vraiment formidable de répondre à nos questions à l'occasion de ces filmographes autour des Demoiselles, mais aussi pour fêter d'une certaine manière les 50 ans de votre Oscar pour West Side Story. Merci beaucoup.
C'était Georges Chakiris au téléphone avec notre bilingue filmographe Antoine Cyr pour cette évocation, ces deux émissions du filmographe autour des Demoiselles de Rochefort. Merci Antoine Cyr.
Ah bah c'était un plaisir, merci.
Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.